À une époque où règne la confusion.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est dans Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'écriture de Bédarieu. Bonjour à tous, fidèles auditeurices des Buissonnières. Je dédie cette émission aux gras sénateurs qui tentent de légiférer la langue alors qu'à part la langue de bœuf en sauce, ils ne connaissent visiblement rien à la chose, et à notre bien-aimé président Macron, phare intergalactique de toute science, qui nous explique que le masculin est en réalité un neutre après avoir ouvert son discours par un retentissant « Française ». Français. En cette fin d'année 2023 où le chaos grandit, on ne se demande pas pourquoi, j'ai la joie de vous présenter Les Buissonnières de novembre, une émission spéciale née d'un gloups. Oui, vous savez bien, gloups. Cette onomatopée que nous arrache la surprise quand elle est tellement surprenante qu'il n'y a plus de mots gloups. C'était il n'y a pas 15 jours de ça, en papotant avec un de mes collègues, et pas des moindres, bénévole comme moi sur ces ondes, j'apprends, au détour d'une de ces phrases, je crois comprendre, mais oui, ai-je bien entendu ? Parfaitement, j'ai entendu. J'ai parfaitement compris qu'il regrette, oui, qu'il regrette quoi ? Qu'il n'y ait pas d'émission littéraire sur RPH. Pas d'émission littéraire ? J'espère que mes camarades des arpenteurs poétiques en particulier sont à l'écoute et qu'ils vont joindre leur gloups au mien. Mais passer la surprise, que faut-il en conclure? Premièrement, qu'on a beau être bénévole à RPH, se dévouer à l'existence de cette radio, concocter des émissions nec plus ultra, se soucier de la bonne santé économique de notre média, se mobiliser pour sa transformation en RPH 2.0, on a beau, n'empêche, on n'est pas pendu H24 à l'écoute. C'est un premier point. Le deuxième, car après le premièrement, déboule en principe, quand le discours n'est pas complètement échevelé, un deuxièmement. Deuxièmement donc, littéraire ne convoque pas les mêmes références ni les mêmes réalités dans tous les esprits. Et littéraire, pour la mise en question, renvoyait visiblement à une émission de critique littéraire du type Apostrophe, La Grande Librairie, etc., qui sont des émissions littéraires, à n'en pas douter, mais qui n'englobent pas à elles seules l'extension du mot littéraire. Littéraire, nous dit le dictionnaire, désigne ce qui ressortit à la littérature. Et la littérature ? Ah, je vous sens là, toutes et tous, tapis dans l'ombre, à guetter comment je vais me sortir de ce guépier. Prudemment, je vais commencer par aller regarder comment s'en sortent les autres. Alors, Madame Wiki, qu'est-ce que la littérature ? La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique, dit-elle. D'accord, mais quelle agence de notation détermine cette valeur esthétique ? Eh bien, les chiffres de vente, les prix. Allons-y. Marc Bernard, Marius Groot, Jean-Jacques Gauthier, Jean-Louis Curtis, ou plus près de nous, Francis Valder, Vintilia Oria, Georges Conchon, Jacques Borel, Jacques Laurent, ça vous dit quelque chose ? Rien ? Dommage, tous ces écrivains ont reçu le prix Goncourt. Les lit-on encore aujourd'hui ? À peine si on se souvient de leur nom. Leur littérature a-t-elle cessé de l'être si on ne les lit plus? Ou les jurés de leur temps avaient-ils un goût de chiotte? Ça se discute. Aujourd'hui, le romancier français le plus vendu est Marc Lévy. Succès populaire et dégoût littéraire, pourrait-on dire. Je suis allée jeter un œil sur ce qu'en dit la critique et voici un extrait d'une chronique littéraire en ligne. Le maître du romantisme moderne, y lit-on, le maître du romantisme moderne a inondé la planète livre de ses romans aussi sucrés que l'eau de rose dont il oint chacun de ses opus. 28 millions d'exemplaires vendus, tous titres et toutes collections confondues, des mois entiers à la tête des charts, statistiques en français, littéraire, un fan club digne des meilleurs boys bands, bandes de gars, en français aussi, américains. Ces éditeurs peuvent dormir sur leurs livres de compte pendant que les libraires, malgré la situation alarmante de leur commerce, fêtent chaque année l'arrivée du dernier Lévy, comme on célèbre le Beaujolais nouveau dans les bouchons lyonnais. Seul à faire grise mine au milieu de ce concert de klaxons, les critiques de la presse littéraire, qui l'ignorent superbement malgré le raz-de-marée populaire déclenché par ses fictions. Mais Marc Lévy, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi des lettres. 14 romans en 13 ans, traduits en 45 langues, 3 adaptations cinématographiques, une adaptation en bande dessinée, des paroles de chansons, etc. Pour en finir avec l'image rebattue d'une littérature sur le déclin, les professeurs d'université ne se privent plus d'initier leurs étudiants aux auteurs actuels. Des conférences, des colloques, on retrouve souvent les mêmes noms. Pierre Michon, Pascal Quignard, Jean Echenoz, Richard Millier, Jean-Philippe Toussaint, Marine Diaille, Laurent Mauvignier. Pour autant, les noms qui fédèrent la critique universitaire ne sont pas ceux qu'on retrouve dans les palmarès des meilleures ventes où Marc Lévy règne en maître tout-puissant. Et voilà, je vous épargne la suite de cet article puisque la question qui nous y avait renvoyé n'a pas progressé d'un pouce. Si ni les prix attribués par les jurys estampillés, ni le succès commercial ne sanctionnent la littérature, comment définit-on la chose? La littérature est un art, poursuit Madame Wiki, exprimant un idéal de beauté. Grâce aux productions littéraires, la littérature permet de manifester des émotions et de révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. La littérature vise à éduquer, à communiquer les pensées, à influencer et même à séduire. La littérature constitue un héritage patrimonial et peut concourir à la préservation du patrimoine d'un pays lorsqu'elle en souligne les valeurs, la culture et la civilisation. Je ne suis pas sûre, Madame Wiki, que cette définition ne ferait pas se retourner dans leur tombe tous les Joyce, Claude Simon, Duras et Sarraud du siècle dernier, ni qu'elle ne donne pas envie aux écrivains et écrivaines qui tombent sur ce paraphe d'étrangler, de vous étrangler, Madame Wiki, de leurs mains. Et moi-même, après avoir publié quelques livres, je peux dire sans trembler que je n'ai jamais songé à éduquer qui que ce soit, ni à révéler ce que j'ai sur le cœur, et pourtant, comme nous tous, messieurs les sénateurs, monsieur le président, j'en ai gros. Fermons cette parenthèse. On avance, oui. C'est quoi la littété, la littérature? Reprenons. Loin des polémiques et même des polémiques Victor, soit dit en passant pour les amateurs de littérature voyageuse, reprenons à la source, à savoir l'étymologie. Le mot littérature, issu du latin literatura, dérivé de littera, la lettre, apparaît souvent au début du XIIe siècle avec un sens technique de chose écrite, puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de savoir tirer des livres. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il prend son sens principal actuel, à savoir l'ensemble des œuvres, écrites ou orales, comportant une dimension esthétique. Résumons, la littérature, c'est un usage esthétique du langage écrit. Esthétique signifie qu'on vise autre chose que l'informatif, le concret, genre « passe-moi le sel ». Et si je dis « le sel, passe-moi », est-ce alors de la littérature ? La question occupe les esprits depuis quelques siècles et Molière en son temps se gondolait déjà en évoquant la chose. Je vous décris le contexte. Monsieur Jourdain, pressentant que sa fortune ne fait pas de lui un homme du monde, prend des leçons auprès d'un philosophe auquel il confie qu'il en pince pour une marquise. Et donc, dit Monsieur Jourdain, je voudrais lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. » Et le maître de philosophie suggère « On peut mettre ces mots premièrement comme vous avez dit, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » ou bien « D'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux » ou bien « Vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. » Ou bien « Mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. » Ou bien « Me font vos beaux yeux mourir, belle marquise, d'amour. » Monsieur Jourdain, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ? Maître de philosophie, celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Conclusion, le sel passe-moi, ça n'est pas forcément de la littérature. Et l'intention esthétique ne consiste pas à faire son intéressant, à rechercher l'original, le baroque, le frappant, mais plutôt à sublimer le matériau avec lequel l'artiste travaille. L'écrivain sublime le langage comme le sculpteur son bloc de marbre. Et là où 10 sculpteurs vont abandonner parce que le dit bloc de marbre est trop étroit, qu'une brèche l'entaille irrémédiablement, un Michel-Ange va tirer parti de l'étroitesse du bloc et de la brèche et sculpter un jeune David que des millions de touristes viennent admirer encore aujourd'hui. Il est vrai que ces notions d'esthétique et de sublimation sont suffisamment flottantes pour qu'à chaque époque, le concept de littérature soit remis en question. Sartre, par exemple, dans « Qu'est-ce que la littérature ?» promeut l'idée d'engagement. Un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres de la spontanéité immédiate au réfléchi. La littérature engagée a eu de beaux jours, puis a cédé le pas devant d'autres courants, le surréalisme appuyé sur les forces inconscientes ou le nouveau roman enraciné dans les découvertes de la linguistique qui a permis de repenser le geste même d'écrire, non pas inspiré par quelques muses, mais poussé par la force motrice du langage lui-même. Et il suffit d'aller prendre un café au bistrot du coin pour mesurer à quel point la force motrice du langage est inextinguible. Écrire de la littérature, c'est donc place dans cette tradition très riche et inventer une esthétique. Ce presque rien qui rend reconnaissable entre mille une écrivaine et un écrivain et qu'on nomme le style. Le style de l'écrivaine, ce qui fait sa patte et sa force, n'est pas une affaire de technique, dit Marcel Proust, mais de vision. C'est votre place dans le monde, votre posture, la manière dont vous considérez vos contemporains et envisagez la vie, qui moule d'une façon particulière votre phrase, préfère tel lexique à tel autre, colore votre prose, lui donne un rythme. C'est précisément à cela que travaillent les ateliers d'écriture, non pas à enseigner un style, mais à permettre, de texte en texte, de le déterminer, de le dévoiler aux yeux de celle et de celui qui écrit. Car bien sûr, celle qui écrit, tout entière plongée dans son vouloir dire, n'a pas au départ la distance nécessaire pour se voir elle-même. Il faut l'attention du groupe, son écoute, l'écoute des productions des autres membres du groupe, pour que peu à peu, par différence, chacun, chacune, prenne conscience de sa singularité. Cette émission, Les Buissonnières, vous donne à entendre le chemin, la construction patiente de ces voix qui s'élaborent dans un atelier. Les Buissonnières sont une émission littéraire qui met en lumière la littérature qui se fait et pas la littérature faite. Donner à entendre cette question si essentielle du style, j'ai choisi de vous faire écouter les voix de quatre participantes qui s'attachent à un même objet, le corps. Certaines, comme Sylvie, optent délibérément pour la fiction.
Métamorphose. J'ai développé un sixième sens. Je n'ai pas dormi de la nuit, car je les ai sentis tous autour de moi. Ils sont là, je les entends, agglutinés dans les buissons autour de ma piscine. Les feuilles bruissent quand ils me frôlent. Je dois m'inventer un nouveau camouflage et m'enfuir d'ici. Je suis traquée. Ma nouvelle teinture de cheveux blond platine est devenue trop repérable. Une idée de Jen, ma coiffeuse adorée, qui, à force d'inventer dans mes colorations de nouvelles couleurs, a transformé mes longs cheveux en une paillasse desséchée. Mes yeux restent magnifiques. Je les agrandis d'un coup de crayon marron. Mes cils sont naturellement longs et recourbés. Je les fais clignoter pour amadouer les metteurs en scène quand j'oublie mon texte. Mon agent est venu me chercher hier soir devant ma villa californienne, affolée par mes sanglots. Il m'a pris un billet d'avion pour la France, puis trois billets de train pour une toute petite ville, Bédarieux, 6000 habitants, dans l'Hérault, un département au sud du pays. Je n'ai jamais été en France, je n'ai jamais pris le train. Quelle aventure pour arriver là! La gare est charmante, envahie d'herbes folles. Je loge chez un scénariste et une écrivaine. Nous parlons anglais. Ils ont vécu des choses très excitantes. En apparence, leur vie est simple. De ma chambre, j'entends couler un fleuve, l'Orbe. Eux vont s'y baigner plusieurs fois par jour. Moi, je n'ose pas. L'eau est froide, j'ai peur des truites qui me frôlent les jambes. Mes si belles jambes, elles se sont couvertes de bleu car je tombe souvent. Mes pieds ripent sur les galets qui longent le petit fleuve. Mes bras, eux aussi, sont couverts de boutons rouges. Les moustiques m'attaquent de tous côtés, de jour comme de nuit. Nous mangeons une cuisine délicieuse à la française, aux saveurs soutenues. Mais je rêve d'un véritable hamburger, baveux de fromage fondu, avec un Coca Light rempli de glaçons. Je supplie chaque soir par téléphone mon agent de venir me rechercher. À 10 000 kilomètres, je l'entends rire. Il m'assure que cette vie authentique, loin des États-Unis, va me transformer. C'est vrai qu'ici, à force de fixer les insectes dans les hautes herbes, je me sens à fleur de peau, plus humaine. J'ai envie d'être enceinte, de porter un bébé, d'arrêter d'être filmée, de laisser pousser mes cheveux rasés. Je m'adoucis. Je peux me promener sans perruque, sans faire de doigt d'honneur aux paparazzi. La France, j'ai pu la repérer sur le globe de ma chambre. Un si petit pays, un si vieux pays. C'est précisément à ce moment-là que j'ai décidé de changer de vie. Naître, paraître, disparaître et renaître. J'ai glissé doucement ma main dans la fente de la boîte aux lettres de leur maison. Du courrier pour moi, j'en tremble. C'est pas joli à voir une enveloppe ouverte avec tant de brusquerie. La lettre est intacte. Les mots écrits dedans, j'ai continué, sont difficiles à lire. Je m'y reprends à plusieurs fois. Quand tu liras ces quelques lignes, je serai à côté de toi. N'aie pas peur, ne t'enfuis pas, ta vie va recommencer. À Bédarieux, plonge dans l'eau froide sans bouée. Je me récite ces mots comme un disque rayé, ou plutôt comme un mantra. Maintenant, je nage avec délice dans les eaux fraîches de l'Orbe. Je cours sans crainte sur les galets. Je fais des plongeons acrobatiques du haut du grand figuier. Bon, je n'ai pas encore réussi à troquer mes robes décolletées à paillettes contre des tenues en lin. Je détourne mon regard des magazines People où j'apparais encore. Je sais que bientôt, on ne m'y verra plus. Changer de vie va sans doute me prendre encore un peu de temps, car j'ai décidé de m'installer pour quelques années ici, à Bédarieux.
D'autres, comme Edwige, optent pour une forme d'autofiction qui tangente le fantastique.
Dissociation. C'était au cœur de l'hiver. Recroquevillée dans mon fauteuil, je l'attendais. Ouais, j'avais bu plus que de coutume, tout liquide confondu. Oui, j'avalais les chips, scrupuleusement, méthodiquement, régulièrement. Un œil sur l'écran de TV pour boire des yeux naguis qui se déhanchaient, et l'autre sur l'horloge dont le cadran quadrillait mes espoirs, mes désirs et mes illusions. Mon pied, faussement joyeux, battait le rythme. Et soudain, ils m'ont ligoté. De ça, je suis certaine. Ma main gauche et mon pied droit m'ont attaché au dossier de la chaise. Quelle fatigue! J'avais très envie de dormir. Mais chaque fois que l'œil gauche clignotait, ma main droite me giflait. Vlan! Du coup, ils étaient trois. Malgré les liens, mon corps s'abandonnait et ma tête roulait de gauche à droite. Et toc, schlac, un violent coup de pied dans les mollets. Ma tête était donc du complot. En arrière-salle, ma raison résonnait. Main gauche, pied droit, œil gauche, mollet droit. À présent, tous devant moi, couple tutélaire, parental sans doute, ils m'observaient sans bienveillance. Je t'accuse, dit mon pied droit, d'empêcher le renouvellement des générations. Tous les soirs, à la même heure, écorche, arrache mes nouvelles pousses, mes jeunes peaux. Et lorsqu'après bien des efforts, tu les sens se détacher de moi, qu'un sang rouge liquéfie tes crevasses, tes gouffres, tes abîmes, tes failles pédestres, tu fais monter en creux de ton ventre ce cri silencieux d'un plaisir infini. Ah, mais tu n'es pas seul. Ta main droite s'est obligamment mise à ton service. Je confirme, dit ma main gauche, atrocement tuméfiée, craquelée de la paume au poignet, méconnaissable par la torture de la veille. Le pouce, rongé jusqu'à l'os, tentait de dissimuler son oncle cabossé. L'index, dépecé, voulait tenir son rôle, me montrer du doigt d'un geste accusateur. Qui ? Mais moi ! Moi qui n'en menais pas large. Le majeur, accidenté par de vilaines coupures à la base de l'ongle, aurait voulu concilier les parties en présence. Mais l'annulaire, jamais pratique à dévorer, lui ne s'en sortait pas trop mal. Quant à l'auriculaire, sa kératine s'épuisait un peu plus chaque jour. Elle complétait mes repas. Mon silence tomba devant les faits. Et je perçus ma main gauche et mon pied droit se pencher l'un vers l'autre en me regardant de travers. En résumé, reprit mon pied droit, devant cette onychophagie perpétuelle, nous te quittons. Mais après consultation, ta main droite et ton pied gauche, que tu ne cesses de masser, d'orleter, caresser pour te soutenir dans tes manifestations hystériques, te laisse tomber aussi. Vivement deux mains libres, qu'elles prennent leurs pieds. Qui me retrouva, enroulé dans le tapis, dissimulé sous le liquage? Pourquoi des gants et des chaussettes? Alors que j'étais immobilisée par des maux de crâne. Question existentielle, sans réponse.
Sans pathos, une éducation à l'anéantissement du corps et des sensations.
Anesthésie. Ce n'est rien, ça va passer. Tu ne vas pas pleurer pour ça. Ferme ta grande bouche, tu me fais honte. Le regard mauvais. Même pas mal, même pas malade. Aller à l'école, débarrasser le plancher. Même lorsque tu t'es fait renverser sur le passage clouté. Tu as rencontré la portière d'un véhicule, projeté sur l'asphalte avec tes livres serrés contre toi. Tu n'avais rien de cassé, renvoyé à l'école. C'était le jour de la bibliothèque. Tes livres pour refuge, pour ressentir ce qu'on ne te donne pas. Avaler tout. Jusqu'à ton appareil dentaire. Il t'avait fait perdre la saveur du coin de l'oreiller susauté, l'ultime privation du réconfort, de l'apaisement, le plaisir du corps qui s'abandonne à la nuit. Les manches de la chemise de nuit cousue n'avaient pas suffi. Te seriner que bientôt tu ressemblerais à un lapin non plus. Tes dents s'étaient avancées. Tu avais eu droit au palais synthétique et à ses deux crochets plantés au milieu pour vaincre le plaisir nocturne. Pour agacer, tu jouais à le décoller de ton palais. Un jour, tu l'avais avalé. Enfin, il s'était coincé dans ta gorge. Tu pouvais respirer, mais plus le retirer. Accompagné en urgence chez le dentiste, deux gros doigts dans ta bouche et c'était réglé. Juste la souffrance, attendrie par la soupe de ta mamie.
Nadia, elle, nous entraîne dans un univers poétique bruissant d'images.
Avec toi. Au crépuscule des chemins tout tracés, je veux sillonner avec toi des petites cachettes qui noircissent les paumes de nos doigts enfantins, bidouiller des astuces pour survivre à l'absurde et l'amour qui nous ronge en pointillés. C'est à n'y rien comprendre, mais si ça te plaît, je bondirai comme un cabri pour m'élancer en cascade dans les blés de poussière et consoler nos cœurs de ce jeu désolant. Éclabousse-moi, enveloppe-moi, emmène-moi dans ton lit de mousse, troquer nos pantoufles pour un verre d'eau et cette peau grisée contre un bouquet de genêt. Ensuite, on mangera des frites, on ira se baigner, jouer à être heureux et revenir glacé. La mort déploie nos ailes de promesses à revendre. Amertume confite sur du pain beurré.
Ainsi prend fin l'émission Les Buissonnières que je spéciale dédicace à mon ami qui se reconnaîtra. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain, le deuxième mardi et le dimanche suivant à 10h sur les ondes de Radio Pays des Raux et RPH Sud, votre radio fidèle qui attend vos dons pour achever sa mue. N'oubliez pas sur le site de rphfm.org, cliquez sur le bandeau de financement participatif et laissez-vous guider. On compte sur vous.
La confusion.
C'était Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez les deuxièmes samedis et deuxièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Pays des Raux et RPH Sud.
Sorry for my mistakes. I am taking